Donc, pour cette reprise, ce début d'année, je dirais, certains d'entre vous savent que nous avons récolté, c'est Louis à vrai dire, le miel de l'étoile. Donc, je pense d'ailleurs qu'il y en aura peut-être à la sortie, enfin vous verrez, en tout cas si ce n'est pas à la sortie de ce culte, à la sortie des prochains cultes. Et donc, j'ai eu envie de partager un texte avec vous, un texte de l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'une femme juge qui s'appelle Déborah. Et Déborah, en hébreu, ça signifie abeille. Donc, voici l'explication de mon choix. Donc, dans le livre des Juges, au chapitre 4, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisra. Il habitait à Oroshet Goyim. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appel à Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit « Voici l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et recrute sur le mont Tabor. Prends avec toi 10 000 hommes, les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kishon Sisra, chef de l'armée de Yabin avec ses chars et avec ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisra aux mains d'une femme. » Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils d'Obab, beau-père de Moïse. Il avait dressé sa tente jusqu'au chêne, près de Kedesh. On informa Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et Sisra rassembla, vers le torrent de Kishon, tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livra Sisra entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi, et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisra, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit ses chars et l'armée, et toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sisra s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber, le Kénien, car la paix régnait entre Yabin et la famille de Héber. Yaël sortit au devant de Sisra et lui dit, « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi. « Sois sans crainte. » Il se retira chez elle, dans la tente. Elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. J'ai soif. » Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant, « Y a-t-il quelqu'un ?» Tu répondras, « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisra, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit que Sisra était tombé, mort, le pieu dans la tempe. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Bon, je vais essayer de donner un peu la douceur du miel à ce texte que vous avez entendu est fort violent. Mais si vous lisez entre les lignes, il y a quand même beaucoup d'ironie et je pense qu'il faut aussi le lire avec cette distance de l'ironie. Bon, on va essayer de le faire ensemble. Donc en cette rentrée, en fait, j'ai eu envie, en dehors du côté anecdotique des ruches de l'étoile, de donner la parole aux femmes. Ceux qui me connaissent savent combien j'aime les textes de la Bible qui nous relatent les histoires de femmes. C'est un vieux côté militant qui est resté en moi. Et puis je trouve qu'à chaque fois que les femmes interviennent dans l'histoire de la Bible, il se passe quelque chose. Bon, parfois il y a des femmes quand même un peu bizarres et pas très fréquentables. Et puis il y a carrément des mauvaises femmes dans la Bible aussi, comme il y a des hommes mauvais. Il n'est pas question de faire l'apologie de la femme par rapport aux hommes. Mais j'avais envie de donner la parole aux femmes, parce que sans commenter l'actualité, je trouve qu'il y a tellement de gens qui commentent et surcommentent, mais c'est surtout des hommes. Des hommes qui disent finalement comment les femmes doivent se comporter, comment elles doivent s'habiller. J'avoue que j'en ai un peu assez d'entendre tout cela. Des fois, je me dis qu'on nous fiche un peu la paix. Mais bon, donc, je suis allée dans la Bible et j'ai donné la parole à une femme, deux, en réalité, puisqu'ici, il s'agit de l'histoire de Déborah, mais aussi de Yaël. Alors, on croit bien trop souvent que dans le texte biblique, on va trouver une idée très patriarcale de la société. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur notre propre société si elle n'est pas encore quelque peu patriarcale. En réalité, dans le texte biblique, je ne vais pas gommer complètement le côté patriarcal, c'est bien souvent beaucoup plus subtil. La plupart du temps, si les femmes semblent confinées à l'ombre, quand elles apparaissent, tout peut basculer. Donc, il faut se méfier des femmes lorsqu'elles se présentent dans le texte biblique, de ce qui va advenir. À ce moment-là, plus rien n'est banal, plus rien n'est anecdotique, car elles se tiennent là, à l'abri des regards, mais pourtant elles vont poser des choix qui vont engager l'avenir. Elles sont nombreuses, certaines mauvaises, comme je l'expliquais tout à l'heure, Dalila, Jézabel, Michal. Elles ont, celles-là, une attitude mortifère. Et puis, il y en a d'autres, qui ont des attitudes beaucoup plus ambiguës et qui ont, en quelque sorte, ouvrent des brèches, mais en étant fortement subversives. C'est un peu le cas de nos deux femmes aujourd'hui. Ainsi, dans la Bible, finalement, les femmes, comme les hommes, même lorsqu'ils sont, entre guillemets, saints, ont des comportements qui parfois s'opposent à la bien-pensance, à la bienséance et à ce que nous pourrions imaginer. Et là, évidemment, c'est un texte violent, un texte guerrier. Et puis cette femme qui plante un pieu dans la tête de l'homme endormi, après l'avoir attiré en quelque sorte par ruse dans sa tente, c'est quand même pas ce qu'on attend d'un texte biblique. Alors vous me direz, c'est l'Ancien Testament, certes, mais bon, quand même, c'est un peu violent. On va essayer de voir comment on peut lire tout ça sans faire pour autant des appels au crime ou à la guerre sainte, parce que j'en suis persuadée, ce n'est pas du tout le sujet de ces textes. Donc, la plupart du temps, les femmes se dressent et elles vont éviter que l'on s'enlise dans l'impasse de la justice, de la violence. Elles ont une certaine audace, elles ont surtout un sens du discernement, et puis elles se servent de leurs armes, là, en l'occurrence, pour la deuxième, de la ruse, Et la première, nous allons voir que son âme, c'est essentiellement sa foi. Déborah est forte parce qu'elle croit, parce qu'elle met sa confiance dans le Seigneur, l'Éternel, son Dieu. Donc ainsi, ici, dans ce texte, les femmes, deux femmes, ont un rôle tout à fait déterminant qui va empêcher l'histoire de s'enliser et de sombrer dans le chaos. Donc, nous voilà donc face à Déborah, ce qui signifie, comme je vous l'ai déjà dit, abeille. Ce qui est intéressant, c'est que Déborah nous est présentée comme, en premier, une prophétesse. On nous dit Déborah, la prophétesse. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont nommées de prophétesse dans la Bible. Elle est d'autant plus prophétesse que, d'abord, elle réussit à avoir une certaine clairvoyance sur l'avenir. Mais aussi, c'est important dans ce récit, dans le livre des juges, nous sommes au chapitre 4, c'est le premier grand juge qui va se lever. Deux chapitres rien que pour Déborah. Certes, avant, il y a eu d'autres juges, Éhoud, Othniel, et puis un autre dont j'ai oublié le nom, mais il y a un seul verset sur lui, donc vous m'excuserez d'avoir oublié son nom. Et donc, mais juste quelques mots à propos d'eux. Là, ici, deux chapitres. Le chapitre 4, dont je vous ai lu pratiquement la totalité, c'était certes un peu long, mais je ne voyais pas comment couper. Et puis le chapitre 5, qui est en fait une reprise de ce chapitre 4, mais qui est un cantique, qui est un chant, qui est un psaume, en quelque sorte, de Déborah, qui va chanter et relire ce qui vient de se passer. Et dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent. Pas beaucoup de textes qui sont attribués pas à des femmes, et celui-ci, qui n'est pas des moindres, est attribué à Déborah. Elle est prophétesse, elle écrit. Et puis ce qui est intéressant, bon, d'un point de vue historique aussi, c'est que, et là, pratiquement tous les spécialistes de la Bible sont d'accord, fait tout à fait rarissime, il est probable que ce cantique de Déborah, donc le chapitre 5, merveilleux cantique, je vous invite à le lire tranquillement chez vous, eh bien, est un des textes les plus anciens de la Bible. Donc, voilà donc un témoignage eh bien, qui nous montre que la place, même dans ces sociétés patriarcales, des femmes, eh bien, peut être importante. Finalement, c'est assez réconfortant, ça nous dit que, quel que soit le lieu où on n'est jamais trop petit, on n'est jamais trop affaibli, pour prendre fait et cause pour ce qu'il faut et nous opposer aux tendances mortifères de nos sociétés. Donc, Déborah, cela signifie abeille. Alors, moi, j'aime bien les abeilles, et puis les abeilles, ça donne du miel. Et vous le savez, le pays promis, eh bien, aux Hébreux, ce pays dans lequel ils sont rentrés, Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ainsi, Déborah a ce rôle de nourricière, de mère nourricière. D'ailleurs, dans son cantique, elle se pose comme mère aussi, eh bien, pour nourrir son peuple. Déborah, ça signifie abeille, mais c'est aussi construit sur une racine, sur la racine hébraïque de Dabar, c'est la parole. Et Déborah, avec ce « ra » à la fin, on pourrait presque dire que c'est la parole de Dieu. Ben, finalement, c'est le rôle du prophète. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur le prophétisme, mais le prophète est la bouche, en quelque sorte, de Dieu. C'est par le prophète que Dieu parle. Mais si on va un peu plus loin, explorer les noms, on nous dit qu'elle est femme de Lapidote. Alors évidemment, quand on entend ça, on pense que son mari s'appelle Monsieur Lapidote. Eh bien, bon, c'est possible, mais Lapidote, ça signifie en hébreu aussi torche, ou plutôt cette mèche qui va éclairer. Et on peut entendre qu'elle est femme, elle est une femme qui éclaire, une femme éclairante. Elle va éclairer son peuple. Eh bien, elle le nourrit, elle l'éclaire, elle lui donne en quelque sorte de l'espérance, parce que c'est ça aussi, éclairer dans le sens de la lumière dans la Bible à cette vertu de nous donner, de nous redonner de l'espérance. Eh bien, c'est un peu le rôle des juges. Vous savez, le livre des juges, On pense toujours, nous, à un juge, à la dimension, à la fonction juridique, mais les juges ici, ils ont bien autre chose que la fonction judiciaire ou la fonction, cette fonction-là. Bon, certes, elle est sous un arbre et on vient la consulter un peu comme Saint-Louis, mais elle est aussi une guerrière, une chef de tribu. Elle emmène tout son peuple, y compris le général qui a la trouille d'aller tout seul à la guerre, qui a besoin de Déborah à ses côtés pour partir. Et d'ailleurs, elle lui répond de manière assez ironique et prophétique. Elle dit, bon, ben, mon vieux, je vais venir avec toi, mais tu n'auras absolument aucune retombée de ta victoire. La victoire revient à une femme, probablement peut-être elle-même ou même Yaël, si on peut, on va un peu plus loin dans le texte. Donc, cette femme est là pour nourrir, pour éclairer, pour diriger son peuple. Et cette femme, ce qui est intéressant, c'est sa foi, à la fois dans ce texte, mais j'aime beaucoup, et c'est toujours, ça m'interpelle toujours, les reprises, les relectures. C'est-à-dire qu'elle fait quelque chose, d'à mon avis, d'essentiel et que nous sommes invités, nous aussi, à faire dans nos vies. C'est-à-dire, on voit ce qui se passe et elle le relie. Elle est capable, eh bien, de relater les choses, mais à sa manière, de son point de vue. Le fait qu'il y ait deux points de vue, c'est toujours aussi très important. Et souvent, dans la Bible, eh bien, il y a des reprises, des points de vue différents. Parce que, justement, la vérité, elle sort de là, de ce conflit ou de cette, superposition des points de vue. Eh bien, Déborah va relire et lisez ce psaume, il est rempli de foi, de reconnaissance envers Dieu. Elle va même jusqu'à réinterpréter la victoire. Là, on nous dit qu'ils sont tous passés au fil de l'épée. Si vous lisez le psaume, on a l'impression, en fait, eh bien, que l'armée de Sisra est engloutie de la même manière que les Égyptiens ont été engloutis par la mer Rouge, eh bien, est engloutie par l'eau du Kishon. Comme si tout revenait, tout revenait à Dieu. Tout ce qui se passe, eh bien, c'est grâce à Dieu. Nous aussi, dans nos existences, on peut trouver que ce qui nous arrive de bien, bah, c'est le hasard, c'est bien, c'est peut-être nous, etc., etc. Puis ce qui nous arrive de mal, bah, souvent là, on a tendance à dire que c'est de la faute de Dieu. Eh bien non, elle relie en disant que, eh bien, c'est miraculeux ce qui s'est passé et c'est grâce à Dieu. Donc, c'est une femme de foi. Et on comprend pourquoi elle a été choisie. La foi, c'est son arme. Son arme, c'est certainement pas les épées comme Barak, mais en fait, ce qui a réussi à amener tout le monde à la victoire, eh bien, c'est la foi. Il y a un joli cantique, d'ailleurs, qui dit « C'est par la foi que nous vaincrons ». Eh bien, oui, aujourd'hui, on peut entendre dans ce texte le côté guerrier, mais cette guerre, c'est aussi une guerre spirituelle et c'est aussi une manière de nous battre pour avoir la foi et être capable de relire ce qui se passe dans nos existences à la lumière, eh bien, de notre foi et à la lumière de la parole que Dieu nous adresse. Ça, c'est toujours intéressant. Mais à la complémentarité des récits, complémentarité nécessaire, on voit qu'il y a aussi complémentarité des protagonistes. Parce qu'il y a Déborah, mais il y a aussi Yaël. Alors Yaël, évidemment, ces quelques versets, en général, on ne les lit pas. On ne prêche pas trop sur le livre des juges. Je ne sais pas si vous entendez souvent prêcher sur le livre des juges, mais c'est un livre un peu spécial, j'y reviendrai après, qui est quand même rempli de violence, donc on hésite avant de prêcher là-dessus. Et pourtant, la violence fait partie de notre vie, la violence fait partie même de notre fort intérieur, de ce qui se passe en nous-mêmes, et puis fait partie de nos sociétés. Donc pourquoi l'oublier, pourquoi la gommer? Elle revient encore plus fort en général. Donc, deux récits, enfin, deux points de vue, mais aussi deux protagonistes, deux femmes. Une femme qui fait partie du peuple hébreu, et puis une autre qui n'en fait pas partie, une étrangère, Yaël. Alors elle aussi, son nom a une signification, Yaël, ça signifie « bouc ». Mais dans Yaël, on entend aussi « ya » et « elle », c'est un nom, comme on dit, théophore, qui porte, eh bien, Dieu. C'est-à-dire que dans son nom propre, eh bien, elle porte cette foi aussi, qui est relue par Déborah, comme étant, eh bien, salvatrice pour le peuple hébreu. Alors, on peut aussi s'interroger pourquoi Yaël. Finalement, pourquoi cet épisode si violent, alors que finalement, il ne reste de cette armée de Yabin qu'un seul élément, mais pas n'importe lequel, Sisra, le général. Sisra, le général. Et lorsqu'il reste un général, eh bien, on peut toujours penser qu'il a la possibilité de rameuter des foules et de remonter des armées et de repartir au combat. Alors Yaël va bloquer tout cela. Et puis, c'est intéressant, pourquoi elle et pas Barak ? Alors lui aussi, son nom signifie quelque chose, c'est l'éclair. Mais je pense que là, c'est de manière assez ironique, parce que, en quelque sorte, il est l'image de celui qui pourrait éclairer, qui pourrait combattre, et puis qui pourrait foudroyer l'adversaire, mais malheureusement, il n'est lâche avant tout. Ainsi, eh bien, Yaël va devoir prendre en quelque sorte le destin, son destin, mais aussi le destin de ce peuple, le peuple hébreu, avec qui elle vit en paix, mais elle vit en paix aussi avec les autres. Elle est une sorte, fait partie d'une sorte de clan qui serait la Suisse d'aujourd'hui, en quelque sorte. Eh bien, de temps en temps, on ne peut pas rester Suisse, on ne peut pas rester neutre, il faut s'engager. Yaël, en réalité, c'est aussi le pendant de Déborah, puisque vous l'avez entendu, Déborah l'abeille est censée faire du miel. Mais Yaël, lorsqu'il lui réclame à boire, qu'est-ce qu'elle donne ? Alors qu'elle s'appelle Bouc, eh bien, elle donne du lait. Et là aussi, elle a ce rôle de nourricière. Et on arrive sur cette terre promise où coulent le lait et le miel. Et si le lait et le miel coulent ici, c'est grâce à Déborah et à Yaël. Ce sont deux figures de mère nourricière. Alors guerrière, mais vous savez, ces figures de guerrière, elles existent dans toutes les mythologies. Et là, on retrouve la figure de la femme guerrière à la manière des Amazones. Alors comment lire cet épisode sanglant ? Il y a plusieurs manières, je vous en proposerai deux. Bon, la première, c'est la plus simple, de manière assez littérale. Finalement, elle le tue parce que est-ce que s'il ne l'avait pas tué, ça n'aurait pas été encore pire ? En quelque sorte, elle est obligée de tuer Sisra en se disant que c'est un, entre guillemets, un moindre mal. Peut-être que si quelqu'un avait tué Hitler en 1928 ou 30, les choses auraient été différentes, je ne sais pas. Je ne veux pas justifier du tout le crime, le meurtre. Mais de temps en temps aussi, on peut s'interroger sur les modalités, la manière de stopper certaines violences et certains êtres. Donc, et puis on est dans une société à l'époque où on ne se pose pas trop ce genre de problème. La situation est quand même critique et eh bien, elle prend le taureau par les cornes et elle y va, elle fonce et elle va transgresser complètement puisque l'interdit du meurtre existe dans la Bible. Elle le transgresse complètement. Elle est une femme qui transgresse comme bien des femmes de la Bible. Alors ça peut nous sembler violent, mais pourtant, certaines personnes qui sont dans le doute, dans la souffrance, qui sont complètement opprimées, s'accrochent à de telles figures pour avoir de l'espoir, de l'espérance. Alors évidemment, cette femme, elle a inspiré les peintres. Vous imaginez bien que tous les peintres, dès qu'il y a une femme et du meurtre, ça les inspire. C'est le cas de Judith, très connue, qui a tranché la tête d'Holoferne. Mais c'est aussi le cas de Yaël. Je parle de la Bible, hein, parce qu'il y en a d'autres femmes. Et alors, évidemment, les peintres l'ont représentée. Mais il y a un peintre, plutôt une femme peintre, qui s'est emparée à la fois de Judith, mais aussi de Yaël, pour dire sa souffrance et pour dire aussi eh bien, que les femmes, malgré la souffrance, malgré l'oppression, puisqu'il s'agit d'Artémisia qui a été violée par son professeur, et puis après elle a été condamnée, enfin bon, ça se passait au XVIIe siècle, donc c'était un peu, certainement pas comme aujourd'hui, encore que, eh bien, cette femme se sert de ces figures de femmes guerrières pour vivre, une sorte de catharsis en fait, eh bien, et pour dire à la fois sa souffrance, sa douleur, la violence qu'elle a subie et la manière dont elle a réussi eh bien, à la vaincre à la manière de Yaël ou de Judith. On peut aussi avoir une lecture plus symbolique, plus spirituelle, et se dire que finalement tout se passe à l'abri des regards, sous une tente, chez Yaël. Alors, eh bien, cela aussi, c'est important. Parce que, en réalité, c'est un peu ce qui se passe chez nous, en chacun de nous, dans notre tente. Dans notre tente, c'est-à-dire en nous-mêmes, où se télescope, se combattent nos désirs de faire le bien et le mal qui est tapis en nous, un peu comme Caïn, eh bien oui, nous pouvons aussi avoir une lecture spirituelle et se dire que oui, nous devons eh bien, planter un pieu dans ce qui est mauvais en nous afin de le faire disparaître à jamais. Et pourquoi pas le dire, le montrer, ça nous oblige un peu à assumer nos choix, puisque Yaël va le montrer, elle va prendre Barak pour témoin. Eh bien oui, nous pouvons avoir aussi cette lecture-là, ce qui s'entrechoque en nous, de violent, de douloureux, nous avons à l'extirper. C'est un combat pour faire sortir de notre crâne les mauvaises pensées et chasser ainsi les penchants les plus vils. Alors, voilà donc plusieurs clés de lecture de ce passage. Mais je voudrais rappeler que dans ce texte aussi, on nous parle de transgression, de subversion. Elles n'ont pas peur, elles transgressent. Et de nombreuses, nombreuses femmes dans la Bible vont transgresser. Et je pense que de temps en temps, il faut s'opposer à tout ce qui est soi-disant bien-pensant. Alors, il ne faut pas le faire systématiquement, il ne faut pas transgresser pour le plaisir de transgresser. Mais il y a des situations où nous sommes amenés eh bien, à aller au-delà de l'éthiquement correct, en quelque sorte. Je voudrais aussi replacer ce petit passage, enfin ce chapitre, dans le livre des juges, de manière générale. Parce qu'on peut avoir, il y a de nombreuses clés de lecture. Le livre des juges, il commence assez bien. Enfin bon, c'est des guerres, mais contre les étrangers. Et puis, à chaque fois, les Hébreux retrouvent un peu de leur force. Malheureusement, ils font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et il y a cette espèce de cycle. Mais c'est un cycle qui n'a rien de vertueux, qui est au contraire, tout le contraire, puisque petit à petit, eh bien, il s'enferme et il arrive à la fin, le dernier chapitre, le chaos complet, puisque c'est non plus la guerre contre les ennemis, mais c'est la guerre civile. Ils s'entretuent entre eux. Et mais il y a des femmes du début à la fin du livre des juges. Au début, vous l'avez entendu, il y en a d'autres avant Déborah, les femmes sont nommées. Et avoir un nom, c'est très important. En plus de ça, elles ont un rôle, elles ont une parole, elles sont des femmes fortes. Et plus la société va s'enliser dans le chaos, et plus eh bien, la position des femmes va devenir difficile. Il va y avoir la fille de Jephté, elle n'a plus de nom, elle est la fille de son père, qui va être sacrifiée. Et puis à la fin, eh bien, une pauvre femme qui va être complètement violée, découpée, enfin c'est l'horreur, mais c'est l'horreur aussi dans le pays. Ainsi, on peut relier cette lecture et le rôle des femmes dans ce livre, le traitement des femmes nous est présenté comme une sorte d'indice, une sorte de baromètre de l'état de la société. Et je pense que lorsque l'on est un peu, comme moi, voire beaucoup, militant pour le rôle de la femme dans la société, ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour la société en général. Une société ne peut être bien, on ne peut vivre ensemble que quand tous, hommes, femmes, et puis après l'étranger, l'autochtone, en fait, quand tout le monde arrive à vivre à sa place. Parce que vous l'avez remarqué, elles gardent leur place quand même. En réalité, Déborah ne réclame pas. Elle fait d'abord appel au chef de guerre. Il ne veut pas y aller, alors elle prend sa place, mais elle fait d'abord appel au chef de guerre. Lorsque une société, c'est lorsque chacun trouve sa place, mais une vraie place, une vraie reconnaissance. Ainsi, le début est plutôt bon, et à la fin, le chaos engloutit en premier la femme, mais toute la société. Donc nous devons être vigilants quant à la place des femmes, mais des enfants, des petits, des rejetés, parce que la femme aussi est ici une figure de tout ce qui est rejeté, petit, mis de côté. Ainsi, si nous voulons que nos sociétés, eh bien, puissent progresser, puissent vivre en harmonie, il faut avoir ce souci de ne pas écraser l'autre et de ne pas faire taire l'autre. Ça, c'est aussi une clé de lecture. Mais je voudrais revenir à la transgression et terminer sur une note un peu plus positive, parce que les femmes transgressent et puis il y a des hommes qui transgressent aussi. Mais on est resté dans l'Ancien Testament. Mais à mon avis, le grand transgresseur, le plus grand transgresseur de la Bible, celui qui va tout subvertir, eh bien, c'est le Christ. Le Christ qui vient et qui s'oppose exactement à tout ce qui coince dans la société. Alors, je ne vais pas repartir là-dessus, mais rappelez-vous, un de ses premiers gestes, eh bien, c'est de guérir un jour de sabbat, parce qu'il remet les pendules à l'heure, en quelque sorte. Il nous rappelle que ce qui est important, c'est l'humain, l'humain, et avant tout, l'humain. Et que oui, on peut transgresser des règles, on peut transgresser des rites, on peut même transgresser des lois pour que l'humain retrouve toute sa dignité. Et c'est certainement cette leçon que nous avons à entendre aujourd'hui. En effet, nous avons à réinventer, en quelque sorte, les codes de valeurs de nos sociétés, parce que, à force de dire les valeurs ceci, les valeurs cela, on oublie de remettre l'humain, l'humanité, au cœur de notre vie, au cœur de notre monde. Et rappelons-nous, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors nous aussi, aimons le monde et soyons capables, et parfois même coupables, de transgressions. Amen.